Bonsoir et bienvenue dans cette édition France Bleu Soir. On va vous emmener dans quelques minutes dans Haute-Garonne, à Luchon plus précisément. Je suis très, très heureux de vous retrouver pour cette spéciale autour de la 21e édition du Festival des Créations Audiovisuelles que l'on vous fait découvrir jusqu'à 20h avec nos invités à retrouver après le journal de Frédéric Dorel. Bonsoir.
Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
Emmanuel Macron poursuit son grand débat national avec des jeunes aujourd'hui.
Le chef de l'État parle études, vie active, pouvoir d'achat, mais aussi place du handicap dans la société, avec un millier de 15-25 ans des jeunes qu'il appelle à investir le débat. On appelle ça une crise diplomatique. La France rappelle son ambassadeur en Italie après une escalade sur fond de gilets jaunes. Nicolas Ballu nous expliquera ce qui se passe exactement. Au procès Nemouche à Bruxelles, les deux journalistes Didier François et Nicolas Hénin reconnaissent formellement leur ancien geôlier et tortionnaire. Mehdi Nemouche n'a pas pu s'empêcher de sourire à leur vue.
Autre procès, autre révélation, Cécile Duflot avoue avoir été victime d'une tentative d'agression sexuelle de la part de l'ancien député écologiste Denis Baupin.
Après 11 ans de silence, l'ancienne ministre a craqué à la barre ce matin. Le harcèlement sexuel en politique, nous en parlerons avec l'avocate Maud Beckers. Le réchauffement s'accélère, chaque année bat le record de chaleur de l'année précédente, depuis 2015. Le climatologue Jean Jouzel pense même qu'il est déjà trop tard, vous l'entendrez. Et puis ce soir, Arnold, vous avez trois invités en duplex du Festival de Luchon.
Eh oui, nous avons ce plaisir, effectivement. Frédéric Dorel, vous allez retrouver dans quelques minutes. Alors, Bruno Solo. Il y aura Catherine Jacob également. Et puis le producteur, ancien agent artistique, Dominique Besnéard. Mais tout d'abord, le journal.
France Bleu Soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
Un journal qui s'ouvre avec Emmanuel Macron. Il est en bras de chemise depuis plus de 3 heures dans un gymnase de Saône-et-Loire.
Ouais, c'est sa 6e journée de débat national. Emmanuel Macron a rencontré les élus ce matin, mais voulait consacrer son après-midi aux jeunes. Un millier de 15-25 ans qu'il a appelé à, je cite, « inventer le pays dont nous voulons ». Lycéens, étudiants, apprentis et volontaires du service civique sont là pour parler de leur avenir. Mais pas seulement, le chef de l'État a également été interpellé par une jeune autiste.
Je me lève parce que franchement, j'arrive pas à rester trop longtemps assise, faut que je bouge en fait. Je voudrais parler de la notion du handicap et principalement des autistes. Et je voudrais parler de ça parce qu'il y en a beaucoup en fait qui sont exclus, moqués et stigmatisés. Il faudrait plutôt lire en fait les livres qui sont écrits par les personnes autistes, parce que qui de mieux pour parler de l'autisme que les personnes qui sont autistes, vous voyez? Alors s'il vous plaît, faites remonter l'info comme quoi ne plus utiliser les autistes comme insulte. Parce que François Fillon, à un moment, il a utilisé l'autisme en disant « on n'est pas des autistes ». Alors s'il vous plaît, on arrête maintenant.
Merci beaucoup. Ce que vient de dire Estelle et ce qui a été dit sur l'autisme est très juste. Et vous l'avez dit avec beaucoup d'émotion, puis avec votre tempérament. On n'est heureusement pas une société, un pays de semblables. On ne se ressemble pas tous. Et on a des caractéristiques différentes, on arrive avec des vies différentes. Certains ont des dons, d'autres en ont pas, certains ont des caractéristiques. Il y a, c'est pas des plus, des moins, c'est qu'on est différent. Et l'école dans laquelle on évolue, puis le monde professionnel doit permettre à chacun, avec ses différences, de pouvoir les exprimer librement, les valoriser, être aimé avec ses différences et donner le meilleur de lui-même.
Emmanuel Macron est le franc-parler d'Estelle.
Emmanuel Macron qui n'est pas allé seul en Bourgogne.
Il était cette fois encore accompagné de plusieurs ministres, dont la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuel Wargon, qui a rencontré une délégation de gilets jaunes. Hausse des taxes, salaires des politiques et services publics en déshérence, leurs doléances ont été notées.
La femme soupçonnée à Paris d'avoir mis le feu à son immeuble dans la nuit de lundi à mardi est à nouveau en garde à vue.
Son interrogatoire avait été suspendu pour un examen psychiatrique. Il reprend, on verra si elle continue de nier cet incendie qui a fait 10 morts, on le rappelle.
Que se passe-t-il entre Rome et Paris? On se pose la question aujourd'hui parce que la France vient de rappeler son ambassadeur en Italie.
Et ce genre de décision, ça veut dire, attention, ligne rouge en langage diplomatique. Pourquoi, Nicolas Ballu? Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
C'est une série de provocations italiennes qui utilisent la crise des gilets jaunes. Luigi Di Maio, le vice-président du Conseil italien, vient de rencontrer une délégation de gilets jaunes en France. Ça ne se fait pas dans les relations d'État à État. Quant au ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, il affirmait le mois dernier « Je soutiens les citoyens honnêtes qui protestent contre un président gouvernant contre son peuple. Plus vite il rentrera chez lui, mieux ça vaudra. » Dire cela d'un allié proche européen, c'est impensable diplomatiquement. Sauf qu'Emmanuel Macron, en lançant sa campagne pour les élections européennes, s'est clairement désigné un ennemi, et c'est Matteo Salvini.
Ah, donc la France n'est pas irréprochable?
Non, et ce depuis plusieurs années déjà. Aux yeux des Italiens, la France se comporte de manière arrogante depuis 10 ans dans le domaine industriel. Beaucoup d'entreprises italiennes ont été rachetées et en revanche, les gouvernements français ont mis des bâtons dans les roues des Italiens. La crise migratoire, la France est accusée par les Italiens de l'avoir provoquée par son intervention en Libye. Libye, zone d'influence historique de l'Italie. Paris est accusé également de ne pas avoir aidé Rome à faire face aux flux migratoires. Résultat, les deux représentants des principaux partis italiens sont en concurrence et font de la surenchère sur le dos de la France. Passer les bornes, il n'y a plus de limite et c'est facile. C'est aussi dans la perspective des élections européennes en mai. Il y aura donc d'autres épisodes.
Merci Nicolas Balu.
Mehdi Nemmouch a bien officié en tant que geôlier du groupe État islamique en Syrie. Il a été formellement reconnu aujourd'hui par deux de ses anciens otages.
Les deux journalistes Nicolas Hénin et Didier François. Ils sont venus témoigner aujourd'hui à Bruxelles le procès de la tuerie du musée juif dont Mehdi Nemmouch est l'accusé. Et cette confrontation leur permet de confirmer ce qu'ils savaient déjà. Cet homme est leur ancien geôlier et tortionnaire. Nicolas Hénin a même reconnu son sourire. Sadique.
Ça faisait plus de 5 ans que je n'avais pas vu Mehdi Nemmouch et il m'a semblé tel que je l'avais connu. Avec à plusieurs reprises, nos regards se sont croisés. Il a eu un petit regard, un petit air narquois, un petit air de défiance. Ce que je retiens en particulier, c'est ce moment où il n'a pas pu réprimer en fait, son sourire. Quand on lui a raconté la façon dont il se présentait lorsqu'il venait nous voir, en disant « Ah, mon petit Didier », pour s'adresser à Didier François. Et ça, ça l'a fait vraiment rigoler. Et à ce moment-là, en fait, eh bien, il s'est trahi lui-même. Et le visage qui restait impassible depuis le début du procès, eh bien, ce visage a parlé pour lui. Et à mon sens, c'était... Bon, pour nous, on n'avait évidemment aucun doute sur le fait que le Mehdi Nemmouch, qui a été arrêté, qui est actuellement accusé de l'attentat de Bruxelles, était bien l'Abou Omar qu'on avait connu, nous, en Syrie, comme notre geôlier et notre tortionnaire. Eh bien, à mon sens, c'était... Il n'a plus besoin de parler, il a avoué avec ce sourire.
Le journaliste Nicolas Hénin, après l'audience aujourd'hui à Bruxelles.
19h07, restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. On y parlera climat, il se réchauffe de plus en plus. Chaque année est un nouveau record, on écoutera l'inquiétude du climatologue Jean Jouzel. Nous parlerons des vacances d'hiver qui débutent demain, mais d'abord, Frédéric Dorel, le sexisme en politique et ses dérives. Cécile Duflot a fait des révélations ce matin.
L'ancienne ministre est sortie de son silence au procès Baupin. 11 ans après les faits, elle reconnaît la tentative d'agression sexuelle dont elle a été victime de la part de l'ancien député écologiste Jean-Philippe Deniaux.
La voix cassée, Cécile Duflot parle vite, comme pour mieux contenir les sanglots. Elle raconte son entrée en politique en 2003, son ascension fulgurante, ministre en à peine 6 ans. Mais dès mon arrivée, précise-t-elle, on m'a prévenu de n'avoir aucun contact avec Denis Baupin. Et puis, un soir de 2008, au congrès mondial des Verts à Sao Paulo, on frappe à la porte de sa chambre, Denis Baupin. Il avait un regard bizarre, violent. Il a tenté de m'embrasser, il m'a touché le cou, il m'a dit « laisse-toi faire ». Je lui ai mis un grand coup de pied dans le tibia, j'étais paniqué, je ne sais même pas comment j'ai réussi à lui mettre ce coup de pied. Et les sanglots de Cécile Duflot la submergent un peu plus quand elle évoque le silence qui s'en est suivi, son silence. En 2016, elle parlera aux journalistes de Mediapart et de France Inter quand elle se rendra compte que d'autres femmes ont déjà témoigné. « Je m'en veux de ne pas l'avoir fait plus tôt », pleure l'ancienne ministre. Mais maintenant que c'est dit, les filles aujourd'hui sauront qu'elles n'auront plus à vivre ça.
Jean-Philippe Deniaux au tribunal correctionnel de Paris. Ce procès est à l'initiative de Denis Baupin qui a bénéficié d'un classement sans suite pour ses affaires de harcèlement mais qui poursuit là en diffamation les femmes et les médias qui l'accusent. On voit comment les choses se retournent contre lui.
On parle souvent de la difficulté d'être une femme en politique. Le témoignage de Cécile Duflot ce matin illustre un autre aspect de la question.
Oui, celui du harcèlement sexuel. Maude Beckers, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate et vous travaillez en lien notamment avec l'AVFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. Le harcèlement en politique, c'est comme dans les autres secteurs où il y a des particularités ?
Écoutez, le harcèlement politique a certaines particularités puisque, à l'inverse, d'autres domaines comme celui, par exemple, du harcèlement sexuel dans le monde de l'entreprise, les femmes qui sont en politique sont des femmes qui sont investies, qui sont engagées et qui croient en la cause politique qu'elles défendent. Donc, lorsqu'elles vont vouloir révéler les faits de harcèlement sexuel, elles vont, en plus d'avoir une difficulté qui est celle que rencontrent toutes les femmes, c'est-à-dire la peur de ne pas être crue, etc., elles vont avoir la difficulté de finalement venir porter la probe sur le parti politique dans lequel elles se sont investies. Et bien évidemment, comme ce sont des militantes, elles se disent que si elles vont révéler des faits de harcèlement sexuel mettant en cause un militant, ça va également jeter le discrédit sur le parti politique sur lequel pour lequel elles s'investissent, dans lequel elles s'investissent, pour lequel elles se battent. Donc en fait, il est très difficile pour ces femmes, et je constate également la même chose dans le milieu syndical, pour ces femmes militantes qui croient dans une cause, de révéler des faits qui pourraient porter préjudice à la cause. Donc elles sont doublement enfermées et doublement prisonnières.
Donc il n'y a pas forcément de lien de subordination. Cette fois, en revanche, elles se retrouvent prises dans un dilemme. Trop de pression interne et externe. Du coup, vous comprenez Cécile Duflo qui pleure à la barre ce matin?
Mais bien évidemment, je la comprends tout à fait. C'est-à-dire que ce sont des femmes de conviction, ce sont des femmes de caractère, et elles se sont retrouvées à devoir se taire parce qu'elles voulaient protéger la cause et protéger leur parti politique. Mmh. Et tout en faisant ça, elles se sont enfermées dans un système où elles se sont finalement retrouvées humiliées, car cela ne correspond pas à leur caractère premier. On voit bien, les militantes sont souvent des femmes qui sont investies et puis qui osent prendre la parole, qui osent défendre les autres, et elles n'ont même pas réussi à se défendre elles-mêmes, et en ne se défendant pas elles-mêmes, elles ont culpabilisé puisqu'elles savaient que d'autres sans doute étaient victimes. Bon, bien évidemment que je comprends la réaction de cette femme, tout comme je comprends la réaction des femmes qui viennent de me voir dans mon cabinet et qui m'expliquent le même type de situation.
Et alors, Cécile Duflo se place entre deux générations, elle le dit, hein, celle de Dominique Voynet avant elle, qui plaçait la lutte pour l'égalité avant presque l'écoute des femmes, et puis celle de MeToo, aujourd'hui, qui ose afficher, entre guillemets, les agresseurs. Ça veut dire que les choses changent?
Oui, heureusement, les choses changent, mais ça fait longtemps qu'on aimerait qu'elles aient déjà changé et évolué. C'est depuis, en fait, finalement, l'affaire Weinstein et surtout les hashtags MeToo et Balance ton porc qu'on sent une réaction. On s'est rendu compte que les femmes n'allaient plus se laisser faire, et quand elles n'étaient pas entendues par la justice, quand elles n'étaient pas entendues par les commissariats dans lesquels elles allaient, quand elles n'étaient pas entendues par leurs interlocuteurs militants politiques, eh bien, elles étaient capables de se saisir des réseaux sociaux pour enfin révéler une parole. Donc oui, les choses sont en train d'évoluer, mais pour autant, le combat reste encore à gagner, car le parcours reste encore celui du parcours d'une combattante. Hein, ça reste très difficile.
Merci Maude Beckers, avocate spécialisée dans la défense des femmes au travail. Merci de ces explications pour France Bleu.
Je vous en prie.
19h12, cette bonne nouvelle à présent pour le journal L'Humanité, qui évite la liquidation.
Oui, les 200 salariés ont 6 mois de répit devant eux, 6 mois pendant lesquels le quotidien est placé en redressement.
Pour le climat, en revanche, Frédéric, les nouvelles ne sont pas rassurantes.
Depuis 2015, chaque année bat des records de réchauffement. On voit bien que le processus s'accélère. Et pour le climatologue Jean Jouzel, il est déjà presque trop tard.
Le réchauffement lui-même est quasiment irréversible. Nous sommes partis pour pas loin de 2 degrés à l'horizon 2050 si nous continuons sur les trajectoires d'émission de l'accord de Paris. Donc le réchauffement climatique lui-même est irréversible, mais c'est surtout l'élévation du niveau de la mer. C'est 3 mm chaque année, mais ça risque d'aller au-delà de 50 cm à la fin du siècle et de se poursuivre 1 mètre au moins à la fin du siècle prochain, voire 2 mètres. Et puis le risque de fonte du Groenland à échéance millénaire. Mais c'est ce que nous décidons aujourd'hui par nos actions des prochaines décennies. Oui, il y a le système climatique qui est essentiellement largement irréversible.
Le climatologue Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts sur le climat.
La SNCF attend 13 millions de voyageurs pendant les vacances d'hiver. Elle commence demain soir.
Et c'est 3% de plus que l'an dernier. Cette affluence sera d'ailleurs à son comble le week-end du 23 février. En attendant, c'est sur les routes des Alpes que l'on attend du monde demain et samedi.
Et nous terminons ce journal Frédéric Dorel avec une info musique. Tina Turner sort un livre dans lequel elle raconte sa vie.
Un livre traduit en français hein, pour les fans francophones et qui fait 250 pages. Il faut ça pour résumer 50 ans de carrière. Le cauchemar avec Ike Turner, son premier mari, le suicide de son fils Greg et la renaissance dans les années 80 grâce notamment à David Bowie et Mark Knopfler, le chanteur de Dire Straits, qui lui a écrit Private Dancer.
Any old music will do.
Private Dancer, Tina Turner en 1984. Ouais. On a bien senti la patte. Hein, de...
Oui, on a bien senti la patte. Vous partagez la même coupe de cheveux. Il fallait que la France le sache. Merci, Frédéric Dorel.
Allez, au revoir.
Au revoir et à lundi. Bonne soirée. Dans un instant, on vous emmène au Festival des créations audiovisuelles de Luchon. Restez avec nous.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.